bonsoir. Entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la Russie. À l'ordre du jour ce soir, quels sont les ressorts de la stabilité du pouvoir russe? Arrivé au pouvoir en 2000, Vladimir Poutine a été réélu hier président avec plus de 87% des voix, une longévité dont on peut se demander par quels moyens elle a été obtenue. Certaines approches prônent par exemple pour une culture politique autoritaire, réfractaire au processus démocratique tel qu'ils se sont répandus en Occident, d'autres pour une véritable verticale de la peur. Certains analystes économiques expliquent que la croissance des revenus moyens en Russie a aidé à une adhésion au projet Poutine et à sa légitimation à la tête de l'État. Les protestations, visiblement limitées à cette réélection, cachent-elles une adhésion moins forte qu'affichée au pouvoir en place, ou bien le pouvoir est-il encore en mesure de faire taire toutes les oppositions? Voici quelques-unes des questions que nous pourrons poser à nos trois invités. Tatiana Kasteweva-Jean, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du Centre Russie-Eurasie de l'IFRI. Vous êtes autrice du livre « La Russie de Poutine en 100 questions », publié en septembre 2020 aux éditions Talentier. Avec nous également Alain Blum, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'INED et à l'École des hautes études en sciences sociales, membre de l'association Mémorial France et co-auteur avec Emilia Koustova du livre « Déporté pour l'éternité, survivre à l'exil stalinien » qui paraîtra en avril prochain aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Et enfin, troisième invité, Jean-Robert Rabiot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en études russes à l'Université Paris-Nanterre et auteur du livre qui vient tout juste de paraître le mois dernier aux éditions de l'Artilleur, « Le logiciel impérial russe ».
У нас впереди много задач.
De nombreuses tâches nous attendent, mais nous sommes consolidés. Je pense que c'est devenu clair pour tout le monde que peu importe à quel point ils veulent nous intimider, peu importe qui ou à quel point ils veulent supprimer notre volonté et notre conscience, personne dans l'histoire n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit de ce genre. Cela n'a pas fonctionné aujourd'hui et cela ne fonctionnera pas à l'avenir, jamais. Les résultats des élections témoignent de la confiance des citoyens du pays et de leur espoir que nous ferons tout comme nous l'avons prévu. Je tiens à vous remercier tous, ainsi que tous les citoyens du pays pour votre soutien et votre confiance. Je vous remercie.
C'était un extrait du discours de Vladimir Poutine hier soir pour célébrer son élection pour son cinquième mandat avec 87,28% des voix. C'est qui ce « il » Jean-Robert Rabiot?
Ce « il », c'est-à-dire
bah, quand il dit « ils n'y arriveront pas ».
Ah, bah, c'est l'Occident, bien sûr. Hein, c'est l'Occident qui est visé, c'est pas l'Ukraine, c'est l'Occident. Effectivement, c'est une élection qui s'est tenue, il y a eu 75 millions de voix pour Poutine, il y en a eu 56 millions en 2018, donc il s'est trouvé 19 millions de voix supplémentaires. Donc il faut s'interroger sur la manière dont ces 19 millions de voix sont apparues. Alors, on est dans un système qui n'est pas démocratique. Hein. L'objectif, c'était pas de désigner un vainqueur. Le vainqueur était déjà désigné. On est dans un système plébiscitaire où l'objectif de cette élection, c'était de, comme a dit Poutine d'ailleurs, consolider. Alors lui, il a dit qu'on était déjà consolidé. Mais l'objectif, c'est de consolider la légitimité du pouvoir et donc incarnée par Poutine. Et donc ces élections ont été organisées pour consolider cet État contre eux, ils.
Et c'est quoi ce système poutinien? Est-ce qu'on peut le définir, Alain Blum? Est-ce qu'il a une caractéristique, plusieurs caractéristiques? Est-ce que c'est un système politique, économique, social? Enfin, qu'est-ce qu'on en sait, tel qu'on peut le voir, tel qu'il s'exerce depuis maintenant le début des années 2000?
Oui, c'est un système autoritaire et autocratique. Ce qui est frappant, c'est que c'est un système, par rapport à la période soviétique d'ailleurs, la période Khrouchtchev, Brejnev, etc., où c'est vraiment une personne qui tient les rênes. Alors, il y a autour de lui effectivement d'autres personnalités, mais au temps soviétique, il y avait quand même, soit un bureau politique, un comité central, il y avait quand même du débat. Brejnev n'avait pas la puissance qu'a Vladimir Poutine. Donc, c'est un système extrêmement individualisé. Je crois que c'est important. Deuxièmement, c'est quand même un système qui tient... grâce à la répression et grâce en fait à tout l'appareil de sécurité. Pour ça, ça rappelle des périodes très noires. Je dirais la période stalinienne, même s'il est toujours dangereux de comparer, mais c'est vrai que cette personnalisation du pouvoir et l'importance de l'appareil sécuritaire, elle est fondamentale. À côté de ça, c'est aussi un système où l'économie joue plus sur des logiques un peu plus libérales. Et de ce point de vue, effectivement, c'est cette combinaison entre l'autoritarisme politique et une forme de libéralisme économique, je pense, qui le, très limité quand même, qui le caractérise.
Tatiana Kastoueva-Agent, vous y aviez travaillé en 2015 pour un grand article justement sur la façon dont fonctionnent les systèmes poutiniens. C'était en 2015. Il a beaucoup évolué. Et est-ce qu'on peut le voir évoluer, ce système, dans un sens ou dans l'autre, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui?
Bien sûr, le système, il a beaucoup évolué, il a complètement changé. Vladimir Poutine n'est pas arrivé avec le même discours qu'on peut entendre dire aujourd'hui, et notamment le rôle de l'Occident, la place de l'Occident, la menace qu'il présente comme étant l'émanation de l'Occident, ce n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, on arrive un peu à la maturation de ce système Poutine, et je dirais qu'aujourd'hui, l'accent est mis sur trois choses. D'une part, c'est l'État, l'intérêt de l'État, l'intérêt vital de l'État. L'État s'est toujours mis en avant au détriment des intérêts des individus, des minorités. C'est l'État qui écrase tout. Et en effet, l'économie, par exemple, reste libérale, mais en même temps, le rôle de l'État dans l'économie n'a cessé de progresser depuis le début des années 2000. De plus en plus d'entreprises, et ce mouvement s'accélère encore depuis
Par la mise au pas de l'oligarque privé, etc.
Voilà,
etc.
Tout cela, tout à fait. Il y a de plus en plus de gens aussi qui travaillent pour l'État, ça veut dire qu'ils sont dépendants de l'État. Les salaires sont versés par l'État, etc. Donc, premier paramètre, c'est l'État. Le deuxième, c'est la force et l'usage de la force. Que ce soit à l'intérieur, en matière de répression qu'Alain Blum a mentionné, que ce soit à l'extérieur, c'est l'armée, ne pas hésiter à recourir à l'armée, à la force militaire, à aller faire les choses manu militari. Ça, c'est aussi l'un des piliers du régime de Vladimir Poutine. Et enfin, ça c'est assez récent, il pousse de plus en plus les valeurs conservatrices, les valeurs traditionnelles. Et heureusement ou malheureusement, ça parle beaucoup aux Russes. Et ça se cristallise beaucoup sur les sujets de LGBT, questions de genre, changement de sexe pour les enfants. Tous les derniers discours de Vladimir Poutine depuis 2 ans mettent l'accent sur ce sujet-là comme étant un point qui différencie la Russie, l'État et civilisation, de la civilisation occidentale.
Cette question de l'État, Jean-Robert Raviot, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles, justement, étant donné la croissance de cet État, le nombre de gens qui en dépendent, d'une certaine manière, de un intérêt et un soutien de plus en plus important à la personne de Vladimir Poutine, tel que vous l'avez décrit au tout début de cette émission?
Absolument, je pense que l'État joue un rôle majeur et le pouvoir... Enfin, on est dans une situation, paradoxalement, où il y a un pouvoir fort et un État relativement faible, malgré tout, même s'il prend beaucoup de place. C'est-à-dire que les dirigeants politiques présentent toujours l'État comme affaibli ou en danger de faiblesse, y compris Poutine aujourd'hui. Il faut toujours le renforcer. Cet État verse la totalité des retraites, donc c'est déjà presque 20% de la population.
Dans une population vieillissante.
Voilà, dans une population vieillissante. Cet État a pris en charge des secteurs stratégiques de l'économie et s'est restructuré dans les années 2000 avec la création des corporations d'État, avec la création de grandes sociétés liées à l'État, très fortement lié à l'État. On estime aujourd'hui qu'à peu près 40% de l'économie russe tourne sous la tutelle ou le contrôle de l'État. Donc l'État est absolument central dans le dispositif et il est central, je dirais, aussi dans l'idéologie et dans la manière de présenter la légitimité du système politique.
Tatiana, qu'est-ce que vous avez, Jean?
L'une des fragilités de cet État poutinien aujourd'hui, c'est la personnalisation du pouvoir. Tout tient, tout tourne autour de Vladimir Poutine, jusqu'aux gouverneurs dans les régions qui, avant tout, vont penser comment répondre à la demande, aux attentes du vertical du pouvoir, plutôt que comment répondre aux besoins de la population sur place. On a vu dans plusieurs cas extrêmement concrets des incendies, par exemple, dans une région, et le gouverneur va penser comment il va présenter cela devant le Kremlin, au lieu de penser comment je vais sauver les vies humaines. On a vu aussi cette fragilité, en fait, et les institutions qui sont très faibles lors de la mutinerie Prigojine l'année dernière. C'est là où on se posait quand même la question si toutes ces faiblesses ne sont pas étalées sur la place publique, parce que Vladimir Poutine avait l'air hésitant et n'a pas réagi tout de suite, et bien tout le système était quasiment à l'état d'arrêt, sans savoir quelle réaction avoir. Comment réagir? Comment rebondir? Quel est le bon mot ou le bon acte à entreprendre?
Oui, pour vous avoir lu dans vos travaux d'histoire, Alain Blum, effectivement, alors certes, il ne faut pas faire de comparaison, vous nous disiez ça tout à l'heure avec Staline, mais néanmoins, des gouverneurs qui ont peur de la réaction du Kremlin, ça rappelle quelques périodes anciennes, en tous les cas.
Tout à fait, non. Moi, quand je dis qu'il ne faut pas faire de comparaison, c'est qu'effectivement, on ne peut pas dire Poutine, c'est Staline, mais je trouve qu'il y a effectivement beaucoup d'éléments qui le rappellent sur cet autoritarisme, sur cet arbitraire aussi de ce pouvoir, et sur la dépendance complète de l'appareil d'État à des décisions, et à côté de ça, un fonctionnement, lorsqu'il n'y a pas de décision, un peu autonome, mais effectivement, l'appareil d'État dépend de décisions particulières, et dépend aussi beaucoup de campagnes de mobilisation, c'est ça, et ça rappelle beaucoup aussi des périodes antérieures.
Qu'est-ce que vous appelez des campagnes de mobilisation ?
Par exemple, typiquement, Tatiana Jean a parlé de la question du conservatisme. On va mobiliser la population. Brutalement, on ne parle plus que de la famille, de la grande famille. On ne parle plus que de la lutte contre le LGBT, que le mariage, c'est un homme et une femme, pour lutter contre l'Occident. Mais c'est apparu, en fait, comme c'était apparu dans les années, milieu des années 30, où on est passé d'une vision... Enfin, la population n'adhère pas tellement à ça. En fait, dans les années, au début des années 2000, il y avait eu des enquêtes qui montraient que les jeunes générations étaient favorables aux LGBT. Et donc, c'est des campagnes qui cherchent à agréger des personnes autour de quelques nouvelles idéologies.
Qu'est-ce que vous appelez, Jean-Robert Raviot, le kremlinocentrisme, et qu'est-ce que vous appelez le moscopolitisme qui serve de base à votre oui. Travail dans le logiciel impérial russe? Est-ce que ça correspond à ce qu'on vient de décrire?
Un peu. C'est-à-dire, oui, il y a une dimension tout à fait importante, c'est que l'État, ceux qui sont le pouvoir, ceux qui tiennent l'État, ont toujours conscience qu'il faut animer une dynamique centralisatrice face
qui
au danger.
Qui n'est pas suffisante, cette centralisation n'est pas jamais, suffisante à leurs yeux. C'est-à-dire qu'il y a toujours la peur de la, oui. du côté centripète.
Bah, la peur du côté centripète, la peur des menaces extérieures, la peur d'un effondrement intérieur. Bon, faut quand même rappeler que cet État, historiquement, il s'est effondré presque trois fois au cours du XXe siècle. L'Empire russe, puis l'URSS, et puis 41, on n'était pas très loin de l'effondrement non plus. Donc il y a cette intériorisation. Donc pour ça, il faut tout le temps... Comme disait Alain, légitimer. En fait, il faut légitimer l'État par toutes sortes de campagnes qui reviennent. Et là, je voudrais dire, pour compléter ce qui vient d'être dit, que les élections qu'on a vues hier, c'est pas seulement destiné à conforter la légitimité du pouvoir, mais c'est aussi fait pour tester la verticale du pouvoir et la pyramide des allégeances, comment ça fonctionne, repérer les failles, repérer les maillons faibles, etc.
Pour corriger, j'imagine.
Pour corriger. Les attitudes. Et là, évidemment, c'est hyper personnel. C'est personnalisé au sens où le Kremlin, enfin le chef du Kremlin incarne le pouvoir, comme presque jamais dans l'histoire du XXe siècle, sauf une période qu'on vient de citer. Mais en même temps, il y a aussi toute une administration politique au Kremlin. Il y a des gens qui tiennent aussi, tous ces gouverneurs. Et il y a quelqu'un qui joue un rôle extrêmement important là-dedans, c'est un ancien Premier ministre libéral de Yeltsin, qui s'appelle Sergueï Kirienko, et qui est vraiment l'homme qui pilote tout ça, toute cette machinerie politique de centralisation.
Ça veut dire qu'il y a une pensée politique au centre, autour de Vladimir Poutine, que cette pensée évolue au fur et à mesure des menaces supposées ou espérées par Poutine soi-même, et qu'au bout du compte, effectivement, on l'a fait évoluer pour pouvoir mettre un peu plus de conservatisme, comme le disait
Tatiana. Oui, moi je dirais qu'il y a surtout des pratiques, hein, il y a surtout une volonté de tenir le pouvoir, et de temps en temps, on utilise des idéologies qui changent d'ailleurs avec le temps.
Tatiana Kastoueva, Jean.
Oui, il y a en fait le conservatisme et tout cela, mais il y a aussi des réactions tout à fait pragmatiques, la gestion au quotidien, au jour le jour, les réunions une fois par semaine pour envoyer des consignes aux médias, de quelle manière présenter tel ou tel sujet, etc. Et on peut avoir parfois des moments de stop and go. Par exemple, Alain expliquait donc la montée de ces valeurs conservatrices. Mais on peut citer des exemples qui sont quand même très amusants. Par exemple, il y a quelques années, il y avait un discours qui montait sur la pénalisation des amendes qu'il fallait verser en cas de divorce. Tout ça, ça préserve donc la famille, les valeurs conservatrices, etc. Et puis soudainement, Vladimir Poutine annonce son divorce. Et je peux vous dire, les conversations ont ont été stoppés net du jour au lendemain.
Ah oui.
Même chose au mois de décembre de l'année dernière, il y a tout un discours qui monte sur les avortements, l'interdiction, etc. Certains gouverneurs commencent à prendre de l'avant et commencent déjà à interdire dans certaines cliniques privées les avortements, etc. Et puis, il arrive le discours de Vladimir Poutine où il dit non, mais les droits de femmes, c'est aussi très important, etc. On ne va pas les priver de cela. Eh bien, c'est tout de suite stoppé, à mon avis, jusqu'à la prochaine vague. Hein. Mais voilà, pour montrer que entre la conviction profonde et le côté vraiment profondément conservateur de la Russie et la réalité politique, il y a quand même un gros écart.
Mais la question qu'on peut se poser quand on évoque ces questions-là, c'est effectivement cette idée de verticale de la peur qui est utilisée par exemple par Gilles Favarel-Garrigue pour expliquer ce qui se passe. Mais on se demande si la verticale de la peur elle va dans le sens descendant ou elle peut aller dans le sens montant d'une certaine manière, parce qu'on voit bien quand même que ce pouvoir, non pas qu'il soit fragile, mais a d'une certaine manière la volonté de contrôler, de peur peut-être que des émeutes ou des révoltes comme en 2011-2012, Alain Blum, ne vienne contester directement la personnalité et le pouvoir de Vladimir Poutine.
Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, d'ailleurs avant ces élections, il y avait une vraie fébrilité. Et en fait, que un pouvoir qui serait, disons, autocratique et admis comme autocratique, n'a pas besoin de réprimer comme le réprime le pouvoir russe. Ça fait penser, il y a certains qui disent, mais je ne donnerai pas des noms, certains qui disent, mais ça fait partie de l'anthropologie russe d'aimer l'autocratisme, etc. Mais en fait, très clairement, Staline a eu besoin d'asseoir son pouvoir en fusillant 700 000 personnes, en emprisonnant des millions de personnes. Poutine a besoin de l'asseoir en réprimant aussi énormément. Donc, de fait, il y a une inquiétude de perdre un pouvoir aussi autocratique, a peur de perdre son autorité, et du coup, le seul moyen de le conserver, c'est la répression. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que la société aime l'autocratie.
Vous êtes d'accord avec ce qui va être dit?
Non, la société n'aime pas l'autocratie, aucune société n'aime l'autocratie, et je ne pense pas non plus qu'on soit dans des répressions d'ampleur stalinienne du tout.
Non, ça, j'ai pas dit ça.
C'est clair. Donc, en fait, la société, elle est, je dirais, elle aussi, dans une certaine peur, dans une certaine crainte, et le pouvoir actuel incarne une stabilité et une espèce de solidité à laquelle elle se raccroche, cette société. Je pense qu'il y a un élément qui est très important pour comprendre alors pourquoi il y a eu 19 millions de voix de plus, on est passé de 75 à 87%.
Et vous mettez des cas de la fraude électorale
potentielle. Alors, j'allais le dire, hein, évidemment, il y a l'organisation de la fraude, il y a le fait que
les
régions annexées aussi. Hein.
Les régions annexées, 8 millions, hein, ça fait pas 19 millions, donc ça fait... Mais il y a aussi le fait que la législation a vraiment limité le nombre d'observateurs possibles extérieurs. Avant, c'était relativement facile d'être observateur. Maintenant, on ne peut plus accéder au bureau de vote. Bon, il y a tout ça. Mais il y a aussi un point important, c'est que les gens se demandent à quelle sauce ils vont être mangés avec cette histoire de deuxième vague de mobilisation. Mmh. Et je pense que c'était dans toutes les têtes. C'est-à-dire, pour la plupart des gens, l'idée, c'était bon, il faut quand même que l'État soit relativement fort et que bon, Poutine incarne une certaine continuité parce que il faut que cette guerre, qui paradoxalement est soutenue par l'opinion, mais tout le monde aimerait qu'elle s'arrête le plus vite possible. Donc je pense qu'il n'y a pas un amour de l'autocratie, il y a aussi une crainte. Le pouvoir a peur aussi de ce qui peut se passer en bas. Il a peur d'une éventuelle désaveu sur la guerre, il a peur aussi, je pense qu'il y a quelque chose de profond pour ce pouvoir. Le vrai enjeu, c'est comment renouveler les générations au pouvoir. Et ça, c'est un vrai problème qui va occuper beaucoup Poutine dans les 6 ans à venir.
Oui, c'est une des grandes questions, effectivement, de savoir si les gens de 74 ans ou de 73 ans comme lui, ou 71, sont ceux qui resteront encore au pouvoir pour les 6 années qui viennent, par exemple.
Je voudrais juste réagir aussi. Pour moi, il est quand même difficile de parler de la société. Il y a vraiment une société, des sociétés, enfin des mondes assez hétérogènes dans le monde russe. On l'a vu quelque part, il y a ceux qui... Alors, peut-être certains sont passés d'un côté à l'autre, mais il y a ceux qui manifestaient en 2011, ils étaient quand même très très nombreux. Il y a ceux qui aujourd'hui expriment leur patriotisme. Alors certains, sans doute, sont passés d'un côté à l'autre. Et sur la guerre, c'est vrai que
j'ai cru comprendre, par exemple, que la responsable du contrôle des élections était dans l'opposition auparavant, et elle est devenue maintenant un des meilleurs serviteurs du pouvoir.
Tout à fait. Bon, là, il y a des stratégies de carrière, je pense aussi. Il n'y a peut-être pas des convictions totales. Mais sur la guerre, c'est vrai que ça traverse un peu plus l'ensemble. Mais il y a vraiment, je pense, moi, en Russie, des sociétés qui sont très très différentes et qui sont mises en avant par les pouvoirs selon la période.
Tatiana Castou et Vajan.
Oui, la société n'est pas homogène, elle n'a pas réagi de la même manière face à la guerre. Et au début, après l'invasion russe de l'Ukraine, la société pouvait s'exprimer beaucoup plus librement. Et c'est là où on a vu des pétitions anti-guerre circuler, les gens qui descendaient dans la rue. C'était déjà quand même la période des répressions. Ils n'ont pas eu peur à ce moment-là à descendre. Mais ensuite, avec toutes les poursuites judiciaires, les gens qui étaient en prison, etc., c'est une autre paire de manches. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans de guerre, il y a une sorte de compréhension qu'il faut faire le dos rond, qu'on peut payer très très chèrement sa résistance et son opposition à cette guerre.
Donc il ne faut pas exagérer les 74 personnes, enfin incidents qui ont eu lieu pendant les élections.
Il y a des choses très hétérogènes derrière cela. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu cette guerre, qui aimeraient qu'elle s'arrête, mais qui ont peur des conséquences, par exemple.
Il y a des gens qui aident, juste un point, il y a des gens qui aident discrètement, par exemple, les Ukrainiens à sortir de Russie. Il y a tout un tas de... Mais c'est pas très présent.
Oui, il ne faut pas le surdéterminer d'une certaine manière.
Tout à fait, oui.
18h41 sur France Culture. Quels sont les ressorts de la stabilité du pouvoir russe? Nous sommes en compagnie de Tatiana Kastoueva-Jean, directrice du Centre Russie-Eurasie de l'IFRI, d'Alain Blum, chercheur à l'INED et à l'École des hautes études en sciences sociales, et de Jean-Robert Ravio, professeur en études russes à l'Université de Paris-Nanterre.
Les conditions économiques en Russie aujourd'hui ne nous permettent pas de devenir un membre à part entière de la communauté européenne. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'élargir notre coopération tous azimuts avec l'Europe. Et je n'exclus pas qu'un jour, entre l'Union européenne et la Russie, on ait sur l'agenda la question de notre intégration. L'Europe reste un partenaire traditionnel clé pour la Russie, et le fait qu'elle s'élargisse ne nous crée pas de problème. Nous ne voulons pas servir de contrepoids à qui que ce soit. Mais l'idée d'une grande Europe me paraît très attrayante. La Russie moderne ne considère personne comme son ennemi et nous voulons établir des relations de partenariat.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Et quand on lui a demandé, ça c'était donc Vladimir Poutine en 2000 sur France 2, mais quand on lui a demandé récemment, c'était en décembre, à Vladimir Poutine s'il avait changé d'idée sur le Donbass, etc., etc. Il a dit « j'ai eu des idées différentes à différentes époques ». On peut dire qu'effectivement c'est une idée différente à une autre époque qu'aujourd'hui, Jean-Robert Ravio.
Oui, il y a une évolution très nette dans le discours, dans le ton, dans l'énonciation aussi. C'est intéressant de voir que l'énonciation s'est martialisée avec le temps. Il s'affirme beaucoup plus dans l'énonciation. Des rhétoriques est différente. Oui, l'Europe s'est éloignée.
L'idée de l'intégration à l'Europe, c'est quand même très très
éloigné. Oui. Il y avait même eu l'idée de l'intégration éventuellement à l'OTAN. Alors ça, c'était peut-être davantage un défi qu'une vraie. Mais la projection de la Russie comme faisant partie de la grande Europe, c'est une idée ancienne. C'est une idée ancienne. Ça fait longtemps que dirigeants russes successifs aimeraient s'atteler à l'Europe, être reconnus comme étant européens. Pierre le Grand, Catherine II, etc. Bon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'évolution est caractérisée par une montée du ressentiment exprimé par Poutine à l'égard de l'Europe et de l'Occident.
Alors, ressentiment, et d'autres disent humiliation, vous le dites d'ailleurs vous-même aussi un peu, mais c'est une sorte d'auto-défense de Poutine et de ceux qui...
Humiliation, non, je dirais pas. Lui, il se sent humilié.
Voilà, c'est oui, ça. Oui. Un ressentiment, il y a une humiliation ressentie.
Un très fort ressentiment.
Oui, Tatiana Kastoueva-Jean, quand vous entendez cette archive.
Moi, sur l'humiliation, en fait, moi, je trouve que ça a été complètement construit et reconstruit a posteriori. Dans les années 90, il n'y avait pas du tout ce discours-là. Probablement maladroitement, mais l'Occident essayait d'aider, à commencer par l'aide humanitaire, par toutes sortes d'aides techniques, etc. Le sujet, c'était pas du tout le sujet de l'humiliation. C'est progressivement que Vladimir Poutine commence à utiliser ce discours, amener les différents éléments, etc. C'est lui-même qui était déjà au pouvoir, qui a validé l'adhésion à l'OTAN des pays baltes et de certains pays de l'Europe centrale. Il a acquiescé à cela pour raconter aujourd'hui que tout ça c'est complètement illégal et voilà, et que il a lancé l'ultimatum pour demander que l'OTAN revienne dans ses frontières avant 90-97.
Jean-Robert Ravio, et puis
il y a deux choses très rapides. D'abord, il y a un retour de la puissance pour la Russie dans les années 2000, et donc cette puissance et cette projection de puissance, cette capacité de projection de puissance va changer, je dirais, la manière dont Poutine et le pouvoir russe en général se considèrent dans le monde.
La majorité de la la population russe
appuie
cette politique de puissance.
Bien sûr, il y a un retour de la puissance et donc une espèce de volonté de revenir à des relations plus équilibrées avec l'Occident. Et puis surtout, je pense qu'il y a aussi quand même objectivement des facteurs qui n'ont pas arrangé les choses, notamment dans le dialogue stratégique avec les États-Unis, où on a vu les États-Unis sortir d'un certain nombre de dispositifs de contrôle des armements. On a vu un discours américain qui lui aussi est monté en flèche. Et je pense qu'il y a une dynamique des deux parties. Je pense que accuser le pouvoir russe d'avoir la totale responsabilité et d'être un peu parano, c'est tout à fait faux. Il y a une double dynamique.
Alain Blum.
Oui, mais je pense, enfin, qu'il y ait une double dynamique. Il y a toujours des doubles dynamiques dans les relations de pouvoir et les relations entre grandes puissances. Il y a eu pendant la guerre froide, etc. Mais pendant la guerre froide, ça n'a pas conduit à un rejet de l'Occident. C'était beaucoup plus complexe. Et la question de l'humiliation aussi, je trouve que c'est beaucoup utilisé par, comme disait Tatiana, c'est beaucoup utilisé pour dire c'est l'Europe qui est responsable. Il y a pas mal de personnes qui le disent. Alors qu'en fait, tout ce qui s'est développé pendant même jusqu'au début des années 2000 de relations scientifiques, économiques avec l'Europe, n'était pas du tout humiliant pour les Russes. Il y a eu une énorme mobilité internationale. L'Europe n'a pas humilié du tout la Russie. De ce point de vue-là, je pense que c'est effectivement beaucoup un argument utilisé pour justifier. Mais juste un point quand même. Sur la puissance, moi, ce qui est clair, c'est pas tant, enfin, c'est la puissance, oui, mais c'est le retour de l'idéologie impériale, quand même. Mmh. Et le retour de l'idéologie de contrôle des territoires qui était l'Empire russe.
Pourtant, vous pensez que c'est plus une idéologie post-impériale, Jean-Robert Rabiot?
Oui, parce que moi, je pense pas que l'objectif stratégique de la Russie, ce soit de reconstituer l'URSS, comme on entend souvent. Bon. Par contre, l'objectif de contrôler les voisinages, ou d'avoir une politique de voisinage sécuritaire, et de mettre le sécuritaire en avant, ça on le voit monter dès la fin des années 90, on le voit monter à l'intérieur avec la Tchétchénie, puis on le voit le monter de plus en plus sur le théâtre extérieur, là où la Russie peut intervenir.
Tatiana Castouët-Vergent.
Je pense que ce qu'il recherche aujourd'hui, Vladimir Poutine, c'est le contrôle des choix stratégiques de ces pays. C'est pas forcément qu'il veut les intégrer au sein de la Russie, comme il a fait avec une partie des régions de l'Est de l'Ukraine, mais c'est d'avoir la main, être sûr en fait que ces pays-là ne vont pas adhérer à des alliances.
Comme la Biélorussie, par exemple, c'est ce que vous pensez.
La Biélorussie, c'est un cas parfait. Voilà, oui, ça fait pas partie de la Fédération de Russie. Néanmoins, aujourd'hui, c'est contrôlé par la Russie. Et encore que Loukachenko a tout fait, il faut lui reconnaître ce mérite, de ne pas entraîner son pays dans la guerre directement, ne pas envoyer les troupes, etc. Néanmoins, sur la souveraineté, c'est un gros sujet, dans quelle mesure la souveraineté de la Biélorussie est limitée. Et évidemment, ce qu'il a affaibli, ce sont les élections falsifiées de 2000 et qui ont été suivies des répressions absolument terribles contre la société civile biélorusse.
Alain Blum, je crois que c'était Anna Politkovskaya qui disait, par rapport à ce qui était en train de se mettre en place en Russie sous Vladimir Poutine, que ça avait l'allure, je crois qu'on disait ça à une époque dans la publicité occidentale, ça ressemble à la loi, mais ça n'est pas tout à fait la loi, et qu'il y avait une dictature de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire, une dictature de la loi en Russie aujourd'hui? C'est-à-dire, on se dit, si c'est un régime démocratique qui vote, comme on l'a vu, hier et avant-hier, si c'est un régime où la loi est changée avec l'accord de toutes les représentants du peuple, comme quand on a changé la constitution, on se dit ça peut apparaître comme un régime démocratique. Et qu'est-ce que c'est que cette dictature de la loi? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est effectivement très paradoxal. C'est que d'un côté, l'appareil judiciaire semble encore fonctionner et est beaucoup mis en avant. Mais d'une part, la loi s'adapte en permanence et change à toute vitesse. Et dès qu'il y a un problème, on voit que la loi change. La FIDH avait sorti un très bon rapport là-dessus, qui montrait à quel point il y avait une dynamique de la loi. Fédération internationale des droits de l'homme. Qui montrait très bien cette dimension-là. Et l'autre aspect, c'est que, il y a des jugements, il y a des tribunaux, on l'a vu avec Navalny, mais qui sont totalement aux ordres. Le résultat est construit. Et du coup, on se demande effectivement à quoi ça sert. Alors, ça sert sans doute à mobiliser, à nouveau, c'était un peu ce que, à mobiliser tout l'appareil d'État, à le rendre dépendant, et pour que cette pouvoir autoritaire fonctionne.
Jean-Robert Rabiot,
en plus, il faut rajouter que la justice russe, par exemple, tout ce qui est du domaine de l'instruction, c'est-à-dire les procureurs et les comités d'instruction, ne sont pas des magistrats, ils ne relèvent pas du ministère de la Justice, ils ne sont pas indépendants par rapport au pouvoir. Donc, ils n'ont jamais été.
Pas plus que les gouverneurs dont on parlait tout à l'heure.
Pas plus que les gouverneurs dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il faut dissocier l'idée qu'il peut y avoir. Vous parlez de démocratique. Moi, je pense qu'il y a une démocratie, c'est quand les élections peuvent être perdues par le pouvoir sortant et que le pouvoir sortant quitte le pouvoir et laisse la place à l'autre majorité. C'est ça, la démocratie. Là, on n'est pas là. Là-dedans, en Russie, on ne l'a jamais été et on l'est encore moins. Mais il peut y avoir des élections avec un pouvoir autoritaire et un système plébiscitaire. C'est exactement ce qu'il y a. Il faut, je pense, disjoindre les institutions et puis la dynamique qui les anime.
Je lisais un article d'un spécialiste de la Russie qui, je crois, était dans le Devoir du Québec, le journal, qui disait c'était un régime bonapartiste. Je ne sais pas si ça correspond, parce que toutes ces façons de faire référence au passé pour pouvoir s'apercevoir que ça n'est pas tout à fait vrai sont parfois exagérées, mais néanmoins il disait voilà, ça donne l'impression d'être un régime plus ou moins démocratique, mais effectivement le pouvoir est au service, la loi est au service du pouvoir. Tatiana,
pas seulement la loi, mais en fait aucune institution qui fonctionne dans une démocratie normale, qui devrait servir de garde-fou en cas de décision, comme par exemple la décision de déclencher la guerre, ne fonctionne pas en Russie. Les partis politiques, ce sont les partis qui sont complètement loyaux au pouvoir. On n'est pas au Parlement si on n'est pas loyaux à la politique du Kremlin. Et d'ailleurs, lors des élections qui se sont déroulées le week-end dernier, c'était très amusant. Les trois autres candidats, ce sont les représentants des partis représentés au Parlement, eh bien, ils n'étaient même pas là pour gagner. Ils le disaient eux-mêmes, qu'ils sont ravis de participer, mais que c'est eux-mêmes et ils allaient voter pour Vladimir Poutine. Donc, c'est quand même très significatif. La même chose pour les médias, un autre domaine où le Kremlin contrôle, en fait, et de plus en plus, contrôle le discours qui est véhiculé dans ces médias. Ne parlons pas de la télévision fédérale. Avant, il y avait encore quelques radios, quelques télévisions qui pourraient fonctionner dans le pays. Ces journalistes-là, ces rédactions sont tous en exil aujourd'hui et continuent encore à diffuser à travers les chaînes YouTube avec le gros point d'interrogation. Est-ce que les autorités russes vont se décider à fermer les chaînes YouTube ou pas?
Je voudrais juste, au niveau de cette question de la loi, il y a un très, très bel et malheureux exemple, c'est le procès d'Oleg Orlov, qui était le directeur de Mémorial Droits de l'Homme. Et manifestement, effectivement, il y a eu deux stratégies, mais ce qui était construite indépendamment de le procès était vraiment une caricature de procès. Il a duré et d'abord, on a senti que l'objectif, c'était de le faire partir. Donc, plein de signaux pour le faire partir. Et d'ailleurs,
De
faire partir à l'étranger. Ça, c'est une nouveté. En Union soviétique, on gardait les dissidents plutôt, sauf quelques-uns.
Oui, il y en a quand même quelques-uns qui partent.
Mais il y en a beaucoup. Alors que là, la politique depuis plusieurs années, c'est plus il y en a qui partent, mieux c'est, les opposants. Et comme il a refusé, on le met en prison. Mais on voit bien que c'est pas un jugement. C'est vraiment des décisions de rendre progressif, enfin, d'envoyer des signaux et ensuite de réprimer.
Comment sortir d'une vision culturaliste, justement, de ce pays qui ne serait pas, comme d'ailleurs un président français l'avait dit à propos des pays africains, mûr pour la démocratie, d'une certaine manière, Jean-Robert Raviot, ou le penser autrement, justement?
Je suis d'accord, il faut sortir d'une vision culturaliste, mais on ne peut pas non plus complètement faire abstraction de l'esprit qui anime les institutions.
De ce que vous appelez le logiciel impérial.
Voilà, et effectivement, quand on parle d'un parlement, quand on parle de la justice, on ne parle pas forcément de la même chose dans le contexte russe. Je vais vous donner un exemple sur le Parlement et sur la démocratie. En 2005, le président de la Douma, Grizlov à l'époque, avait eu cette phrase très symptomatique. Le Parlement, ce n'est pas un lieu pour avoir des débats politiques. Le Parlement, c'est là où on fait la loi de la manière la plus compétente possible. Donc ça répond un peu à toutes les questions dont on a parlé. Le Parlement n'est pas là pour débattre, il est là pour faire la loi. Et la loi, elle est faite pour l'État. Donc il y a la dictature de la loi, ça veut dire la soumission à la loi des citoyens et des institutions, mais c'est aussi
l'écriture de la loi.
La loi est un instrument de pouvoir. On n'est pas dans un état de droit idéalisé, etc. Donc je pense qu'effectivement il faut arrêter de de considérer la Russie comme un pays, je sais pas, il faut admettre que c'est un pays différent, voilà. Alors pour toutes sortes de raisons, moi je suis pas dans le culturalisme, donc, hein, mais il faut voir
tout de même l'esprit. Un peu. Quand vous dites ça, c'est un petit peu culturaliste que de dire que ça n'est pas exactement. C'est une histoire qui est différente.
80% des pays du monde sont différents du monde occidental.
Oui, bien sûr. Ah, oui, voilà. C'est ça. Oui, Tatiana Castou et Vincent.
Oui, mais ce qu'il faut rappeler en fait, c'est que la chute de l'URSS, il n'y a eu aucun apprentissage de ce que c'est vraiment la démocratie, les droits de l'homme et ce que c'est l'organisation à l'occidental. On a fait comme si, du jour au lendemain, cette connaissance innée devait juste relever au sein du peuple russe.
Oubliant qu'il y avait presque un siècle entre la Révolution française, par exemple, et la Troisième République.
Bien, il s'est avéré qu'il y a une incompréhension totale de ce que c'était vraiment et que l'État a continué à fonctionner sans faire son devoir de travail sur la mémoire, sans condamner les crises. Les crimes du communisme a continué à fonctionner sur un mode hybride et finalement c'est un peu le passé qui a ressurgi pour prendre le dessus, tous les anciennes habitudes, les réflexes et il y a aussi le fait que les élites, ça fait partie de la stabilité aussi du régime Poutine. Souvent, ce sont les mêmes élites qui étaient là déjà à l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Il y a très peu de changements d'élite. Ils sont encore porteurs de cette mentalité de l'époque soviétique.
Oui, et d'ailleurs, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Robert Ravio, Alain Blum, c'est comment renouveler ce régime une fois que son principal dirigeant vieillit.
Tout à fait. Mais alors, effectivement, pour ne pas faire du culturalisme d'abord, il faut quand même vraiment à nouveau souligner que ce régime a besoin d'une répression et de lois de plus en plus répressives pour tenir. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une société ou des sociétés qui réclament autre chose. Ça, je crois que c'est un point important. Comment le renouveler ? On a vu quelque part, à nouveau, l'expérience historique est intéressante. Bon, ça s'est renouvelé quand l'URSS est tombée. Malgré tout, il y a eu des institutions qui ont réussi à fonctionner, qui ont réussi à commencer à mettre en place un système démocratique qui s'est interrompu. Bon, Yeltsin est aussi responsable, hein. Mais il est même très responsable en 80. Voilà. Mais malgré tout, on voit que il y avait une poussée d'un vrai débat. Et donc, c'est là que je dirais, c'est bien sûr, c'est une société, un monde différent, mais en même temps, c'est un monde qui a une demande démocratique, moi je pense.
Parlementaire. Qu'est-ce que c'est la modernisation sans occidentalisation?
Mais Yeltsin a quand même inauguré la Constitution de 93. Un mois avant, il a bombardé le Soviet suprême. Oui, bon, ça commençait pas très bien.
Une constitution qui est effectivement déjà.
Alors effectivement, sur laquelle, effectivement s'est appuyé. Ce qui est vrai, c'est une vraie question, le renouvellement des générations. Il y a deux choses. Il y a comment le pouvoir actuel va-t-il se survivre à lui-même en désignant des successeurs? Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Est-ce qu'il va trouver autre chose qu'en désignant ses propres fils, la voie dynastique qui semble être actuellement privilégiée, plus ou moins? Oui. Et d'autre part, il y a une autre chose, c'est que le pouvoir actuel a parfaitement intériorisé la difficulté qu'il a à dialoguer avec la jeune génération, les moins de 35 ans, et en particulier les moins de 35 ans les plus diplômés venant des grandes villes. Et ça, je pense que c'est une faiblesse. Parfaitement, qui n'est pas avoué publiquement, mais qui est largement commenté dans les cercles du pouvoir et qui est une vraie question.
Merci en tous les cas à tous les trois d'être venus parler de ce pouvoir russe et de sa stabilité, ainsi que des ressorts qui lui permettent de rester justement au pouvoir pour ce qui est de Vladimir Poutine. Merci à vous Jean-Robert Ravio. Votre dernier livre s'intitule Le logiciel impérial russe. Il est sorti le mois dernier aux éditions de l'Artilleur. Alain Blum, vous sortez le mois prochain, donc Survivre à l'exil stalinien, déporté pour l'éternité avec Emilia Koustova aux éditions de l'École des études en sciences sociales. Et Tatiana Kastoueva-Jean, vous êtes directrice du Centre Russie-Eurasie de l'IFRI et vous êtes autrice de La Russie de Poutine en 100 questions, paru aux éditions Talendier. Vous écoutez, c'est donc le temps du débat qui a été préparé ce soir par Mathias Mégy, Fanny Richet, Anouk Sevenot, Candice Bergeron, Bruno Barada, à la technique ce soir et à la réalisation Daphné Leblond et à la technique, excusez-moi, à la technique Alex Dang.